L'esprit critique. Mediapart.
Les relevés de l'art pariétal à travers le temps et à travers la planète, les présences des modernités arabes à Paris tout au long du XXe siècle et les trois décennies autour du monde de l'artiste et collectionneur Hervé Di Rosa. L'esprit critique de ce jour vous emmène dans trois expositions qui font circuler les espaces d'un bout à l'autre de la planète. Présences arabes, art moderne et décolonisation Paris 1908-1988 au musée d'art moderne de la ville de Paris, Hervé Di Rosa le passe-monde au centre Pompidou et enfin Préhistomania au musée de l'Homme. On parle de cela avec Magali Le Sauvage, rédactrice en chef de l'Hebdo, le numéro hebdomadaire spécial enquête du quotidien de l'art, et Margot Nguyen, travailleuse de l'art indépendante. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Présences arabes, art moderne et décolonisation, Paris 1908-1988 est le titre de l'exposition qui a ouvert le 5 avril dernier au musée d'art moderne de Paris et qui sera visible jusqu'à la fin août. 200 œuvres, 4 sections et 3 commissaires d'exposition, Morane Montazami, Madeleine de Colnay et Odile Burlureau, proposent ici une impressionnante traversée du XXe siècle en forme de relecture de l'histoire de l'art moderne, où l'on croise des peintres connus et des artistes méconnus, de l'orientalisme arabe, du surréalisme égyptien et même les œuvres du chirurgien de Saddam Hussein. L'exposition commence en 1908, année de l'arrivée du poète libanais Khalil Gibran à Paris et de l'ouverture de l'école des Beaux-Arts du Caire, et se clôture en 1988 avec la première exposition consacrée à des artistes contemporains arabes à l'Institut du Monde Arabe inaugurée quelques mois plus tôt, mais aussi 1988, symboliquement l'année où Yasser Arafat proclame la création de l'État palestinien. Alors sans doute faut-il commencer avec une vision d'ensemble de cette exposition qui tient les deux bouts d'une pédagogie très solide, tout en refusant l'austérité parfois à l'œuvre dans ce genre d'exposition assez pointue. Est-ce que vous l'avez trouvé, comme moi, à la fois maîtrisé dans la forme et dans le fond, à la fois libre et très tenu, Magali Le Sauvage ?
Alors oui, en effet, assez libre et tenu, avec 130 artistes qui sont pour la plupart assez peu connus, je pense, du public français. Et c'est une expo qui est très compartimentée, qui est très segmentée en chapitres, en sous-chapitres, donc qui permet de comprendre très bien tous ces des contextes géographiques qui sont quand même très différents de la Tunisie à l'Égypte au Liban. Donc ça, je pense que c'est très important parce que la contextualisation est vraiment nécessaire et surtout qu'on touche beaucoup à des sujets très politiques, évidemment, puisque toutes ces 8 décennies en fait sont aussi les 8 décennies de la lente, d'une lente décolonisation, alors décolonisation réelle, indépendance des pays, mais aussi décolonisation des esprits, si on peut dire,
et des imaginaires
qui n'est évidemment pas encore terminé, mais voilà, qui a eu lieu tout le long de ce siècle. Et donc, je crois que c'est important. On sent derrière qu'il y a un travail donc très important qui a été fait par ces deux chercheurs, Morane Montazami et Madeleine de Colnay, qui sont les fondateurs de Zaman Books and Curating, donc qui sont des éditeurs et qui organisent des expositions et qui font depuis des années un travail de recherche et d'édition, de publication sur ces artistes et dont on voit ici le résultat du travail, enfin une infime partie finalement du résultat de leur travail, parce qu'il faudrait faire une exposition sur chacun de ces pays, sur chacune de ces scènes culturelles. Là, je trouve que le foisonnement de l'exposition ne gêne pas la lecture, que le propos est assez bien tenu, avec des œuvres en fait qui sont très, emblématiques. C'est-à-dire que de chacune des œuvres, on peut tirer un fil, on peut raconter l'histoire d'un artiste, d'un destin, d'une famille, voilà, d'un exil ou pas. Enfin, c'est vraiment humainement aussi extrêmement riche et je trouve que c'est assez bien organisé de ce point de vue.
Margot Nguyen, à peu près la même question sur cette capacité à synthétiser tout en ne réduisant pas ça à des grandes structures où on ne verrait plus que les structures.
Tout à fait. Et la sensation de traverser 80 années d'histoire sans être jamais écrasé en fait par le poids de l'histoire, mais vraiment en veillant. Enfin, je trouve que le point de force de l'exposition est bien que les œuvres d'art et l'histoire de la représentation vient jouer comme des notes sur une partition et que le partitionnement historique, enfin l'articulation entre histoire et histoire de l'art est extrêmement bien structurée et présentée. Et donc on a d'emblée cette triple frise chronologique qui nous accompagne au long des 4 chapitres de l'exposition, mais aussi une vraie variation dans la scénographie avec des cimaises plus focus sur certains artistes, les cimaises colorées, qui sont comme des rappels et qui viennent mettre en lumière les travaux de certains artistes, des espaces de documentation qui sont là aussi extrêmement judicieux. Et je trouve qu'on atteint un équilibre vraiment entre choix des œuvres, discours historique et rentrer dans le détail de certaines idées. Et tout ça crée un équilibre qui crée une exposition extrêmement convaincante et jamais écrasante par son érudition, en fait.
Et ça, c'est pour la nature, je dirais, de l'exposition en tant qu'exposition, mais on peut dire peut-être quelque chose d'assez parallèle vis-à-vis du discours qui est tenu sur des œuvres qui sont, comme vous l'avez dit, Magali Le Sauvage, prises dans une longue histoire de colonisation et de décolonisation incomplète, mais avec, sans aucun irénisme, c'est-à-dire qu'on est, on entre avec une photo de massacre au Liban qui est là présente dès l'entrée du visiteur, mais en même temps, c'est pas purement de la dénonciation, de l'accusation, ça montre aussi que cette histoire, elle a été faite de beaucoup d'allers-retours, de regards appropriés, désappropriés, aussi d'une forme de complexité, de relationnel, prise dans un cadre colonial, évidemment, dont la violence n'est jamais masquée, mais il me semble, ne se contente pas, certains types d'expositions décoloniales, d'être dans la dénonciation.
Non, et puis je crois ce qu'on voit bien dans les œuvres aussi, c'est la complexité des identités elles-mêmes qui se traduit, vous parlez de l'orientalisme arabe tout à l'heure, qui peut paraître un paradoxe.
C'est une notion assez étrange. C'est en fait, ce qu'il dit, c'est l'Orient rêvé par lui-même, mais c'est pas une notion finalement qu'on trouve chez Edward Said.
Non, mais parce que l'orientalisme, c'est donc un mouvement artistique qui naît au 19e siècle et qui est purement européen, c'est-à-dire que c'est le regard des Européens sur l'Orient, entre guillemets. Bon, l'Orient, c'est un terme assez vague aussi, et qui fantasme l'Orient, l'Orient riche, l'Orient érotisé également. Et donc, en fait, c'est cet orientalisme qui est réinterprété par des artistes arabes et non pas des artistes arabes qui regardent la réalité de leur propre monde. Donc après, on comprend aussi que cette espèce de fantasme du fantasme, on est dans quelque chose qui quand même est assez troublant dans l'espèce de fantasme au carré, en fait, en quelque sorte, de l'Orient. Il vient aussi du fait que ces artistes sont venus étudier pour certains en France, ou que les écoles aussi du Caire, de Beyrouth, qui se créent au XXe siècle, sont calquées sur les modèles des écoles des beaux-arts européennes. Donc en fait, les professeurs même viennent aussi d'Europe. Donc ces artistes sont aussi éduqués, entre guillemets, à un regard européen. On voit ça aussi en Afrique subsaharienne, d'ailleurs, à la même époque. Et donc forcément, non pas qu'ils renient complètement leur culture, mais forcément, ils veulent aussi coller, d'ailleurs aussi pour des raisons de marché de l'art, ils veulent aussi coller à une certaine esthétique qui est soi-disant celle de l'art moderne, ce que devrait être l'art moderne. Donc on est dans quelque chose de très complexe d'un point de vue d'identité. Et effectivement, les revendications politiques, là-dessus, elles ne sont pas forcément nécessairement lisibles dans ces œuvres-là, parce que ça peut venir chez certains artistes. Pour d'autres, non, ils veulent finalement coller à un canon, et ils le font de manière assez...
Oui, du coup, on se retrouve avec des artistes arabes, finalement, peignant avec un regard quasiment occidental ou orientaliste. Et inversement, on découvre aussi en France la diversité des regards portés, parce que donc c'est centré sur des artistes qui sont passés par Paris, c'est un peu ça l'idée, que ce soit de manière éphémère ou plus permanente, dont certains en fait continuent d'épouser l'orientalisme, certains s'approprient quasiment les œuvres, et puis certains demeurent vraiment critiques. Et c'est là que la circulation politique, artistique est aussi bien mise en œuvre dans l'exposition.
Tout à fait. Et c'est intéressant de penser aussi, je trouve que l'exposition célèbre vraiment la question des mouvements, et donc de ce mouvement transculturel et d'aller-retour, et aussi de qu'est-ce que c'est qu'un mouvement artistique. Et en ça, la section sur le surréalisme égyptien et ce mouvement qui s'appelle Art et Liberté m'a particulièrement marquée, parce que cette digestion du surréaliste, réinterprétation, qui produit un mélange absolument singulier et extraordinaire, en fait, je trouvais une très très bonne illustration de la complexité de ce que c'est un mouvement artistique.
Ouais, comment c'est pas une fusion au sens dans lequel on peut faire, mais vraiment des formes de circulation très précises. Il y a cette figure complètement étonnante de cette militante marxiste et surréaliste égyptienne qui s'appelle Inji Eflatun. C'est ça aussi que l'exposition donne un peu envie, c'est de de singulariser quelques figures. Alors, il y en a tellement, mais je ne sais pas lesquelles vous garderiez avec vous. Il y a cette autodidacte algérienne surnommée Baya qui avait été en partie récupérée par Breton. Il y a moi cette Valentine de Saint-Point, militante anticoloniale dès le départ que je ne connaissais pas du tout. Enfin, quelle figure vous auriez envie de distinguer? Et vous avez bien dit, il y a 130 artistes, donc là, on ne va pas être exhaustif ou roboratif.
Bah, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a beaucoup de femmes et des commissaires, d'ailleurs, de l'exposition ont beaucoup insisté là-dessus. Il y a N.G. Flatoun, effectivement, dont on voit des gravures qui sont un peu, effectivement, très influencées par le surréalisme, qui sont vraiment extraordinaires. Moi, c'est une artiste que je ne connaissais pas. Baya, qu'on avait revu à l'Institut du Monde Arabe. Des artistes plus connus d'aujourd'hui comme Mona Hatoum. Il y a Huguette Calan aussi, qui fait d'ailleurs l'affiche de l'exposition. Donc, cette peinture abstraite avec ces espèces de formes un peu diluées comme ça, dans des couleurs claires. Il y a Leila Mouraïwid, qui fait ces espèces de dessins très très étrange, onirique. Vous avez une réunion de famille avec un cochon au milieu sacrifié. Enfin, c'est des scènes de cauchemar qui peuvent évoquer des images d'exil, mais d'exil douloureux. Il y a Etel Adnan, qui est déjà bien connue, mais à laquelle est consacrée une petite salle avec les Porello qui sont magnifiques.
Alors ça, il faut expliciter un peu parce qu'elle est bien connue, mais néanmoins certains ne connaissent pas. Donc, c'est une poète, peintre libanaise, auteur notamment d'un texte qui s'appelle L'Apocalypse arabe. Et donc toute une salle est consacrée, qui faisait des livres dessinés et en même temps écrit, quoi.
Bah, qui faisait des peintures et qui faisait aussi, donc les Leporello, en fait, ce sont des sortes de longs papiers comme ça qu'on peut déplier et qui sont en fait comme des espèces, effectivement, c'est un mélange de peinture et d'écriture. Il y a notamment, il y en a un très beau où elle représente les toits de Paris, on dirait un petit peu comme des pictogrammes. Enfin voilà, on est entre l'écriture et la peinture et ce mélange-là est très beau et ces poèmes sont également, on peut les entendre dans l'exposition, ils sont aussi récités. Et donc voilà, moi je voulais aussi dire que on voit beaucoup de femmes. Il y a aussi cette sculpture assez incroyable d'une femme kabyle, une sculpture en bois qui appartient aux collections du musée du Quai Branly, qui est une œuvre de Rabah Mellal, qui n'est pas exposée au musée du Quai Branly, et qui est une sculpture qui ressemble un peu à une sorte de cariatide, en fait, de femmes femme simples.
C'est une grande sculpture en bois de plus de 2 mètres, assez impressionnante.
Assez impressionnante, qui se tient très droite, les bras croisés. Donc, on sait par la documentation que c'est une figure de résistance, mais voilà, plutôt une figure de résistance passive. On sent qu'elle est là, elle a les bras croisés, le regard bien fixé et elle attend. Et cette sculpture, c'est intéressant de savoir qu'elle est conservée au musée du Quai Branly, mais qu'il ne la montre pas, parce que je pense que c'est une œuvre qui n'est pas dans le discours en fait, de ce musée-là. Ou dans la section Maghreb du musée du Quai Branly, vous avez les magnifiques bijoux, vous avez la vannerie, etc. Mais on ne va pas vous montrer une œuvre d'une artiste, ça c'est une œuvre des années 40, on ne va pas vous montrer une œuvre comme celle-ci.
Oui, en ça c'est une exposition totalement anti-folklorique,
exactement.
Du musée moderne.
Et c'est vrai qu'il faut célébrer ce travail de recherche en fait, dans les collections nationales.
Et notamment dans les réserves, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres, c'est ça qui était marquant. Hein, on a fait la visite avec les commissaires d'exposition, à quel point beaucoup des œuvres qu'on voit là étaient dans les réserves des musées. Il y a aussi plein de collections privées, enfin,
mais
n'ont jamais été montrées.
Parce que les œuvres correspondent à une histoire non discutée, non exploitée, non montrée. Et du coup, on découvre des peintures des collections de l'Institut du Monde Arabe, des œuvres de la Cité de l'Immigration, du Musée des années 30, du CNAP, du Quai Branly, comme tu l'as dit, Magali. Et du coup, c'est aussi une réévaluation de ce que les collections ont à dire et ont à montrer. Et donc, en ça, ça ouvre des perspectives très riches.
Et vous, pour vous poser la même question, on sentait dans la réponse de Magali Le Sauvage la profusion de cette exposition. Vous, si vous deviez en donner à voir quelques-unes.
Et pour continuer dans cette idée de mouvement et d'action de groupe, j'ai trouvé que ça laissait la place aussi à la visibilité pour ce type d'action. Et j'ai été très marquée par le fait, parce que j'ai appris durant cette visite, que donc en 1931, pendant l'exposition coloniale internationale de Vincennes, il y a eu des happenings anticoloniaux qui se sont déroulés en même temps au parc de Vincennes. Et je trouve très émouvant en fait que c'est une constellation d'artistes et d'âmes individuelles, de singularités individuelles. Mais il y a aussi la place qui est laissée à des initiatives de groupes. Le groupe Aouchem, qui veut dire tatouage, qui est un groupe d'artistes algériens et algériennes, dont Baya faisait partie, est évoqué. Aussi la commande d'affiches de l'OLP, où on découvre des magnifiques affiches dans les années 80, qui sont donc réalisées par des artistes palestiniens, palestiniennes. Et je trouve que la place qui est laissée aussi à l'énergie de groupe et à la réflexion intellectuelle de groupe et à l'échange est quelque chose de très intéressant dans cette proposition.
il y a aussi, on voit quand même au fil de l'exposition que le politique et la volonté de montrer la réalité en fait de ce que c'est que le combat décolonial et de ce que c'est aussi que la lutte contre les empires s'accentue aussi au fil des années, parce qu'on termine quand même sur, alors il y a beaucoup d'œuvres graphiques très belles sur la lutte palestinienne par exemple, mais aussi sur les violences policières en France.
Oui, on et termine... avant cela sur quand même la guerre d'Algérie qui fait rupture, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tableaux là qui sont montrés, qui font écho à cette histoire-là. Enfin, on sent qu'il y a une présence de la violence qui s'accentue au moment de cette exposition.
Voilà. Et là, on n'est plus dans, il n'y a plus d'orientaliste arabe, on n'est plus dans quelque chose où on va essayer de créer un monde qui pourrait éventuellement être harmonieux. Là, c'est terminé. Il y a une violence, en fait, qui surgit vraiment après la guerre, enfin, à partir des années 50-60, très forte. On termine avec le clip de carte de séjour du groupe, le groupe de Rachita, où on voit bien les violences policières. On voit aussi un immeuble de la Courneuve qui est abattu dans les années 80. Donc, c'est aussi cette violence...
Un immeuble de la cité des 4000 qu'on choisit de faire imploser, en gros, parce qu'on ne sait pas régler le Dixit problème des banlieues, et donc on fait exploser les immeubles.
Mais c'est vraiment voilà, une image de l'échec en fait, des politiques aussi françaises qui ont voulu régler la décolonisation sur le sol français et qui l'ont très mal conçu. Et donc ça, plus ça va, plus quand même on arrive dans des images violentes, et surtout les artistes qui peut-être sans doute étaient censurés aussi peuvent aussi montrer ça et le manifeste et le montre aussi à un public français qui le reçoit et qui y répond. Et donc ça, c'est important.
Présence arabe, art moderne et décolonisation, Paris 1908-1988, c'est donc à voir au Musée d'art moderne de Paris jusqu'au 25 août prochain.
L'esprit critique. Mediapart.
Hervé Di Rosa, le passe-monde, est le nom de l'exposition que le Centre Pompidou consacre à ce peintre, sculpteur et collectionneur, figure du mouvement dit de la figuration libre, né au début des années 80, qui puise largement dans la bande dessinée et la culture populaire. Hervé Di Rosa est lui-même né en 1959 à Sète, où il a fondé au début des années 2000 le MIAM, le Musée International des Arts Modestes. Mais les grandes institutions culturelles françaises l'ont rarement, voire jamais mis en avant, contrairement à des lieux comme la Maison Rouge du collectionneur Antoine de Galbert en 2016. L'exposition elle-même au Centre Pompidou est relativement modeste. Elle s'intitule « Le passe-monde » parce qu'elle restitue trois décennies de voyages effectués par l'artiste durant lesquels il a confronté ses images et son imaginaire à des techniques et des artisans de Bulgarie, du Portugal, du Ghana, du Cameroun, du Vietnam, du Mexique ou de l'Espagne. Avant qu'on entre peut-être dans cette exposition, est-ce que vous pouvez, Margot Nguyen, nous restituer un peu plus précisément ce qu'est ce mouvement dit de la figuration libre dont Hervé Di Rosa est le représentant le plus célèbre ?
Oui, donc dans la figuration libre qui rassemble un certain nombre de jeunes peintres, donc Hervé Di Rosa, Robert Combas, François Boiron, se forme donc au début des années 80 et va vraiment valoriser une approche de la peinture qui s'inspire d'une culture populaire. En fait, souvent, il y a le parallèle qui est fait entre voilà, la figuration libre serait à la peinture ce que le rock est à la musique. Donc vraiment venir puiser des références formelles dans la bande dessinée, le street art. Cette génération a aussi été très marquée par des voyages. Donc ils étudient aux arts déco. Enfin, Hervé Di Rosa étudie aux arts déco et ce groupe se forme dans la mouvance des arts déco. Et ils ont été très marqués par un voyage d'études qu'ils ont fait à New York où ils découvrent donc Kissaring, Basquiat. Et donc il y a vraiment cette idée que l'espace pictural est investi et envahi d'un répertoire formel de couleurs saturées, très énergiques comme ça, et qui va puiser dans un vocabulaire à la fois culture pop et culture street, entre guillemets. Et donc, dès sa naissance, ce mouvement-là promeut une sorte d'autre approche de la peinture assez radicale et jeune, quoi.
Et qu'est-ce qui explique, Magali Le Sauvage, qu'on puisse avoir le sentiment que les institutions culturelles l'ont quand même longtemps délaissé ? Est-ce que c'était un moment où, de toute façon, la peinture n'était pas à la mode ? Est-ce que c'est ce côté un peu venant de la rue ? Est-ce qu'il y a d'autres explications à une forme de négligence dont on peut se demander si elle est tout à fait réparée par cette exposition qui, elle-même, reste modeste ?
Je ne sais pas s'il y a une telle négligence que ça. Moi, j'ai l'impression que c'est un artiste qu'on a quand même pas mal vu. Il faut savoir que cette exposition, c'est l'exposition d'un don d'Hervé Di Rosa au Musée national d'art moderne. Donc c'est aussi pour ça qu'elle est pas immense, c'est qu'en fait toutes les œuvres qu'on voit, c'est des œuvres qu'il donne donc au musée. Donc c'est pas une rétrospective, ça se veut pas une rétrospective de 40 ans de carrière.
Donc ça peut tenir sur deux salles et une entrée.
Oui, puisque en fait il y a quand même, je sais pas, une trentaine, quarantaine d'œuvres peut-être. Donc ça se veut pas une rétrospective. C'est l'exposition d'un don d'un artiste à un musée. Et je crois qu'il y a un peu, enfin moi j'ai l'impression qu'il y a un peu une légère mauvaise foi à dire qu'on est l'enfant terrible. Enfin bon, cette expression très années 80 justement, l'enfant terrible de l'art, qu'on est rejeté des institutions. Hervé Di Rosa, c'est un artiste qui a quand même une belle cote sur le marché de l'art. C'est quelqu'un quand même qu'on a beaucoup vu dans des expositions. Peut-être qu'il a pas eu l'immense rétrospective sur 800 mètres carrés au Centre Pompidou, mais bon. Je pense qu'on peut. Enfin voilà, je suis pas sûre.
Il a fait des résidences dans le monde entier.
Voilà,
comme l'exposition,
je ne crois pas que ce soit un artiste qui soit vraiment rejeté,
marginalisé, ouais.
Marginalisé, ouais. Comparé à d'autres, notamment des femmes comme Vera Molnar qui est de l'autre côté et qui vient de décéder et dont l'œuvre est extrêmement importante et belle et qui n'a, elle, jamais vraiment eu de rétrospective. Donc je pense qu'il faut quand même un peu mesurer.
C'est un peu l'image construite.
Ouais. Hervé Di Rosa, en plus, ses images sont bien connues. Enfin, c'est quand même un artiste... voilà. Je ne suis pas trop d'accord avec ce storytelling de l'artiste maudit. Voilà.
Tout alors le travail, si on se centre maintenant un peu sur l'exposition, c'est présenté comme une succession de voyages permettant des hybridations entre des techniques développées ailleurs et ses propres personnages et images. Qu'est-ce que ça produit ? Est-ce que ça produit plutôt des judicieux alliages ou un peu des risques de pillage, pour le dire vite, Margot Nguyen ?
Dans les deux, parce que quand on parle d'énergie, enfin, on sent une chose incontestable, c'est que voilà, c'est un artiste animé par une grande énergie, voilà, le passe-monde ou le dévoreur-monde. Et donc, toutes ces étapes qui sont numérotées les unes après les autres.
Oui, il y a 19 étapes.
Voilà, 19 étapes visent à chaque fois à collecter ou extraire des techniques locales en collaboration avec des artisans voilà, qui maîtrisent certaines techniques.
Alors, il faut donner quelques exemples.
Hein.
Ça peut être
la lac au Vietnam, l'azuléros au Portugal, les icônes.
Donc, l'azuléros, c'est
les carreaux de céramique.
Des techniques un peu de sculpture baroque venues. Là, je pensais à celles qui viennent d'Andalousie.
Oui, en Espagne, les sculptures au Cameroun. Donc voilà, il y a vraiment cette volonté exhaustive et un peu encyclopédique de se faire l'artiste comme réceptacle de l'apprentissage technique à travers le monde. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ça pose certaines questions. Et je pense que l'appareillage critique de l'exposition n'introduit malheureusement pas la question de l'appropriation. L'appropriation des objets, l'appropriation des techniques, l'appropriation formelle. Et qu'en effet, aujourd'hui, c'est un peu problématique de montrer comme ça une compilation de tout ce travail sans mettre en question ou juste amener la question de l'appropriation.
Ouais, on ne voit dans les cartels parler que de rencontres, alors qu'on pourrait un peu parfois parler de sous-traitance.
Bah, sous-traitance, je sais pas, parce qu'on imagine quand même qu'il fait un peu les choses lui-même, du moins qu'il participe, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une espèce de boulimie comme ça à aller dans chaque pays emprunter les techniques et les motifs aussi d'ailleurs parfois de ces pays-là, qui en fait au bout d'un moment est assez perturbante, parce que le Hervé Di Rosa des années 80, donc dans cet esprit graffiti, BD, un peu trash comme ça, je trouve ça vraiment bien, comme le héros aussi de l'artiste héros donc des années 80, c'est vraiment intéressant. Et à un moment donné, donc en 93, il part comme ça et puis il fait un pays après l'autre, donc 19 en 20 ans. Enfin, c'est quand même aussi qu'est-ce qu'on a le temps de savoir,
de vraiment développer,
de même de relations humaines intellectuelles avec les gens sur place. En fait, qu'est-ce qu'on a le temps vraiment de retenir de ça? Et donc, vous avez ces œuvres comme par exemple, il a fait en Afrique du Sud de la vannerie à partir de fils électriques, donc ça, c'est une tradition du 20e siècle qui est en Afrique du Sud, à partir desquelles vous pouvez faire des paniers ou des pots comme ça. Et vous avez cette frise en fait de personnages. Alors, il y a un noir, un qui a une peau blanche rose, on va dire, et un jaune. Et c'est censé être donc tous les êtres humains, on est tous égaux. Enfin, je veux dire, ça aujourd'hui...
Autour du monde,
oui.
Voilà,
oui,
ça aujourd'hui...
C'est très pour Benetton.
Voilà, Benetton, mais bon...
UNESCO.
Donc, les Asiatiques ne sont pas jaunes. Enfin, vous voyez, je veux dire, aujourd'hui, c'est des choses quand même qui passent vraiment plus très bien. Alors, je pense qu'il y a une certaine bonne volonté de sa part. Alors que je crois que c'est exagéré de taxer de raciste, vous voyez. Mais par contre, il y a vraiment cette génération... Alors, je ne vais pas dire que c'est boomer, mais bon...
Si, on peut le dire.
Il y a quand même ce truc où, en fait, on se dit... enfin cette espèce de façon de ponctionner comme ça dans les pays des choses et en fait de consommer en fait en quelque sorte si vous voulez. Lui va vous dire que c'est dans le partage qui est comme ça, c'est une manière de montrer ses techniques, de montrer ce travail, mais en fait ce qu'on retient c'est Hervé Di Rosa, on sait pas qui sont les gens avec qui il a travaillé finalement, on sait pas, on connaît pas l'histoire de ses techniques. Ça reste quand même vraiment du...
Ça me semble intéressant ce que vous dites, parce que mais est-ce que vous dites pas deux choses un peu différentes, c'est-à-dire le processus de création et effectivement un peu le côté je m'embarrasse pas, j'utilise des techniques, alors sans doute d'ailleurs de grands professionnels, mais il y a un peu moi je reste l'artiste et eux ce sont les artisans, et ce que vous dites des types de figuration qui me semble être une autre critique et qui renvoie sans doute à un moment d'ailleurs où il y avait une polémique sur une fresque de Di Rosa à l'Assemblée nationale, où la manière de figurer notamment les personnages noirs avait posé problème à certains. Est-ce que vous pouvez nous la restituer ?
Mais alors ça, oui, justement. Alors, il y a un tableau dans l'exposition qui s'appelle Storage of Treasure, donc le stockage des trésors, en quelque sorte, qui est vraiment un tableau, moi, que j'ai trouvé extrêmement problématique et qui rappelle justement la polémique au sujet de cette fresque qui est à l'Assemblée nationale. Donc, le tableau qu'on voit au Centre Pompidou, vous avez une pièce fermée, donc une pièce close avec tout un tas de sculptures de pays différents, de statuettes, en fait, comme vraiment le trésor accumulé qui est là, où tout est mélangé. Elles sont comme coincées, comme ça, c'est assez claustrophobique comme image. Et puis, la porte est ouverte, vous avez deux yeux sans corps, comme ça, qui regardent, qui viennent aussi de son iconographie des années 80. Et cette image, elle rappelle donc, effectivement cette fresque qui se trouve toujours donc, à l'Assemblée nationale, qui est une fresque qui est censée célébrer la première abolition de l'esclavage en 1794 et qui montre en fait des figures noires qui se libèrent de leur chaîne, avec qui arborent un grand sourire comme ça, avec des lèvres rouges très exagérées, des grands yeux. Enfin, c'est vraiment, ça reprend l'image caricaturale du noir qu'on a pu voir dans les années 20-30.
Oui, l'iconographie banania, comme
voilà, exactement.
On pourrait dire.
Et donc, il y avait eu effectivement cette tribune de Mam Fatou Niang et de Julien Suodo en 2019 qui avaient découvert cette fresque, qui sont deux universitaires français qui vivent aux États-Unis, mais qui avaient fait une tribune qui avait suscité beaucoup de critiques en disant « Mais Hervé Di Rosa, il adore l'Afrique, en gros. Enfin, vous voyez, bon, il a beaucoup travaillé en Afrique, donc il n'est pas raciste. » Alors, je crois qu'ils n'ont jamais dit qu'il était raciste. C'est juste, en fait...
Non, c'est toute la question de, voilà, est-ce qu'au fond, en reproduisant une iconographie caricaturale, on peut la détourner ou au contraire, on la reproduit. Enfin, je pense que c'était ça qui est un peu un cœur des questions actuelles.
Mais l'excuse, c'était qu'en fait, ces figures, elles reprenaient aussi sa manière de peindre des années 80, avec ses figures grotesques, avec ses gros yeux, ses grandes bouches, etc. Sauf que là, clairement, personne ne pouvait pas voir la similitude entre ces figures et les figures, en effet, banania caricaturales. Donc, en fait, que l'Assemblée nationale... Enfin, comme il disait bien dans la tribune, en fait, si vous voulez, qu'ils fassent ces tableaux, qu'elles se vendent, si... Bon... Mais par contre, qu'elle soit dans un lieu comme l'Assemblée nationale, ouais, un lieu de la représentation nationale,
et de
pour célébrer l'abolition de l'esclavage, ça, c'est quelque chose qui est quand même d'une maladresse, le mot est faible, hallucinante.
Et pour, sur ces questions, pour revenir sur l'exposition, Margot Nguyen, je veux bien votre sentiment. On peut parler d'une autre des pièces qui est intéressante. C'est une sculpture à huit bras qui est présentée dans la deuxième salle, pour laquelle Hervé Di Rosa travaille avec le sculpteur camerounais Mamadou Kouyam. Mais il a aussi couronné cette statue avec un vase en céramique, lui, réalisé au Portugal. Et là, on peut se demander un peu, bon, voilà, effectivement, est-ce qu'il fait de la fusion food ou de la rencontre.
Ouais, j'ai peu d'avis. Ouais, non, c'est ouais.
Non, mais sur le, on voit le côté world music, quoi.
Ouais, world. Voilà, c'est ça. C'est une pensée world, un peu à la fois exhaustive,
voilà,
encyclopédique et pas fondée. Voilà. Et moi, je trouve que le plus authentique de sa production, c'est peut-être cette démarche sur les arts modestes. Enfin, et voilà, la dernière vitrine derrière, et donc ce paysage de robots, de jouets en plastique, où tout un chacun pourra justement retrouver un jouet d'enfant qu'il a vu. Je trouve que c'est peut-être ça le plus généreux et le plus généreux à offrir au monde, justement. Et ce projet donc du,
voilà,
musée
ça,
des
alors,
arts
ça, il
modestes.
Faut, c'est une des vitrines, comme on en voit beaucoup à Sète, au Musée international des arts modestes, avec effectivement plein d'objets,
de jouets en plastique,
de
figurines,
sous des vitrines,
de goodies,
qui peuvent rappeler à plein de générations leur,
voilà,
propre enfance.
C'est ça.
Donc en gros, on est en train de dire que finalement, c'est un meilleur collectionneur.
ouais. Non, mais il y a ce truc de l'accumulation. Non, c'est ça. Et l'exemple que vous donniez, formel, enfin, je pense qu'il y a une vraie... Il est dévoré par une sorte de collectionnite de tour du monde, et peut-être que ouais, c'est dans ces vitrines et en collectionnant des jouets que finalement sa démarche se ressent aussi.
Hervé Di Rosa, Le Passe-Monde. Cela a ouvert le 28 février dernier et ce sera visible jusqu'au 26 août prochain.
L'esprit critique. Mediapart.
Préhistomania est le titre d'une exposition présentée par le Musée de l'Homme qui a ouvert à la mi-novembre dernier et qui est encore visible jusqu'au 20 mai prochain. Elle explore les origines de l'humanité à travers une matière particulière, les relevés d'art rupestre. Ces peintures sur toile ou papier ont reproduit, depuis la naissance de la science préhistorique, les œuvres peintes dans les grottes depuis les premières expéditions commencées au début du XXe siècle. L'exposition présente plus de 200 documents et objets, dont une soixantaine de relevés originaux. Alors, qu'est-ce que Magali Le Sauvage révèle tous ces relevés présentés dans une exposition qui offre un panorama mondial de l'art rupestre et pariétal?
Alors moi j'ai été assez étonnée parce que finalement on est au Musée de l'Homme qui est un musée scientifique qui fait partie du Muséum National d'Histoire Naturelle, donc qui est la même structure, donc qui est aussi un musée où il y a des conservateurs qui sont aussi des scientifiques, des anthropologues, des ethnologues, donc c'est quand même une particularité. Et là ce que j'ai trouvé c'est que c'était vraiment une exposition d'art, enfin ce qui n'est pas pour me déplaire, mais c'est que j'ai trouvé quand même qu'il y avait, c'est-à-dire qu'on arrive dans l'exposition, pour situer déjà peut-être un peu le déroulé, c'est qu'on arrive dans l'exposition, vous avez des reproductions, enfin c'est relevé donc de ces peintures pariétales ou de ces reliefs pariétaux, grandeur nature, qui sont d'une beauté vraiment extraordinaire. Enfin, c'est vraiment...
Et qui font plusieurs mètres de long.
Voilà, très impressionnant dans les dimensions.
Parce que c'est à l'échelle 1, donc du coup, c'est vraiment très grand. Et il y a une ou deux salles comme ça, et il y a vraiment un choc esthétique, quoi. C'est vraiment... Et il y a très peu, là, à ce moment-là, vous avez très peu d'explications. Même sur les cartels, moi, j'ai été frappée parfois pour la datation, c'est écrit « quelques millénaires ». Plusieurs millénaires, je crois, c'est écrit. Donc ça, bon, après, je suis pas préhistorienne, mais je trouve que c'est quand même un petit peu, je trouvais ça un peu léger. Après, il y a un peu plus de matière scientifique qui arrive, mais c'est quand même une exposition qui est très sur le choc artistique qu'on produit.
Oui, ça se veut vraiment d'abord une expérience sensible. Après, on entre dans des salles où c'est là beaucoup plus explicatif, mais au départ, il y a l'idée qu'on traverse une expérience sensible, comme si on entrait dans une grotte d'ailleurs, avec un éclairage assez sombre.
C'est ça. Exactement. Mais en même temps, je trouve que on a des explications après sur les différentes expéditions qui ont eu lieu. Donc Henri Breuil, Léo Frobenius, dans la première moitié du XXe siècle essentiellement. Donc on a des explications sur ça, sur leurs méthodes, sur leurs démarches, etc. Mais pas tellement sur les œuvres elles-mêmes, en fait, pas tellement sur les objets eux-mêmes. Et moi, c'est quelque chose qui m'a un petit peu manqué. Après, j'ai été vraiment stupéfaite de découvrir certaines images chamaniques, les mains négatives, par exemple, qui sont extrêmement belles. Et voilà, je trouve c'est une exposition où la balance, si vous voulez, art-science, est un peu déséquilibrée au profit de l'art, pourquoi pas. Mais pour le Musée de l'Homme, en tout cas, je trouve ça assez étonnant. On serait au Centre Pompidou, par exemple, peut-être que ce serait une question qui se poserait moins. Là, je trouve que l'apport scientifique est un petit peu léger.
Margot Nguyen, un peu
et
sur cette même question.
Moi, j'ai eu un ressenti assez différent du tien, Magali. Je trouvais justement que même dans la présentation des immenses relevés, on avait quand même ce zonage géographique sur des cartes qui, pour moi, fait très Musée de l'Homme. Je trouve que la dernière salle qui montre tout le matériel de relevés, le contexte de relevés, bon, quand même, est assez scientifique. Et je pense que l'exposition, enfin, telle que je l'ai comprise, s'axait vraiment sur le statut de ces relevés, en fait. Est-ce que le relevé est un objet scientifique, une archive ou une œuvre? Et peut-être que cette tension, en fait, aurait mérité d'être plus dite, peut-être de manière plus explicite, et effectivement, et ça je te l'accorde, de manière à répartir dans l'exposition de manière plus équilibrée les choses, parce qu'on a aussi toute une salle sur la réception moderne et l'exposition de 1937 au MoMA.
Ouais, alors je pense que ça, il faut en parler assez vite, même si on va reparler de celui qui l'organise, Léo Frobenius, qui est un des premiers principaux explorateurs de l'art préhistorique et qui organise une exposition avec 150 relevés d'œuvres rupestres d'Afrique et d'Europe au MoMA de New York. C'est aussi une exposition qui est voulue par Alfred Barr, qui est alors le directeur du MoMA, et en gros c'est un accrochage qui ne donne quasiment aucune information, alors là, beaucoup moins que celle du Musée de l'Homme contextuelle, dans le cadre vraiment d'un parti pris de montrer ça comme des œuvres en soi, c'est relevé. Une exposition qui va tourner aux États-Unis, dont on nous dit qu'elle a influencé toute une partie de l'art américain, Jackson Pollock et d'autres. Là, on est quand même dans un moment de rupture où on estime que non seulement l'art préhistorique est un art, mais que les relevés sont en soi des œuvres. Margot Nguyen.
Ouais, très intéressant, et qui participe de cette conception. ou la question de l'aura ou de la reproduction. Enfin voilà, c'est aussi contemporain de certaines réflexions en histoire de l'art. Enfin Walter Benjamin sur la question de l'aura, enfin et l'aura dans la modernité. Est-ce que, enfin la reproductibilité, je pense que ça s'inscrit dans ce mouvement de réflexion. Et en ça, je trouve que voilà, c'est une question qui aurait pu être amenée de manière pour moi un peu plus explicite dans l'exposition.
Oui, en effet, je crois que ce qui est intéressant, c'est que c'est la surinterprétation qu'on fait toujours des œuvres du passé, d'un passé si lointain en tout cas. C'est-à-dire que il y a aucun, évidemment, aucun document qui nous dit qui a fait ça, pourquoi, comment. Enfin, évidemment, il y a de la recherche, mais on est obligé d'interpréter, on est obligé de deviner en fait ce qu'étaient ces choses. Et il y a certains cartels qui sont d'ailleurs, par exemple, sur les mains négatives, il y a un cartel qui parle de l'intime, qui dit que c'est comme une carte de visite. Enfin, vous voyez, c'est assez beau d'ailleurs, ouais. Parce qu'on voit que là, les commissaires ont voulu un petit peu rendre la chose un peu poétique. Et effectivement, c'est extrêmement touchant. On a envie de poser soi-même sa main sur cette main qui elle-même est une reproduction d'une main qui, en fait, donc est sur une paroi ailleurs. Enfin, comme un espèce de jeu de, voilà, de toucher.
Ouais, bah, enfin, de communication avec vraiment la préhistoire, quoi, avec, nos origines.
Avec un être humain qui, voilà, avec lequel on a sans doute beaucoup plus de points communs que de différences, mais qui vivait il y a une dizaine de milliers d'années. Et donc, ce qui est intéressant et qui, effectivement, comme disait Margot, est peut-être pas assez. Mais là, peut-être que ce sera un regard plus artiste, c'est-à-dire parce qu'il faut savoir que les releveurs, qui étaient beaucoup des releveuses d'ailleurs, des femmes, ça l'exposition insiste pas mal là-dessus, donc ça c'est important, des femmes qui étaient des étudiantes en art, donc on imagine aussi qu'elles acceptaient de partir dans des conditions assez difficiles dans ces expéditions qui étaient dans des lieux un petit peu, enfin elles étaient obligées de monter sur des falaises, il faisait très chaud, enfin voilà, ça devait être assez compliqué.
Oui, il y a quelques photos assez impressionnantes.
Voilà, quelques photos assez impressionnantes, et donc voilà, on voit un petit peu on imagine que ces femmes ou ces hommes étaient aussi artistes et que donc quelle est la part d'interprétation, par exemple dans les couleurs, parce qu'il y a des très beaux lavis comme ça, des aquarelles, des choses avec des superpositions de couleurs. Donc quelle est leur interprétation là-dedans, quelle est dans les coloris par exemple. Il y a forcément une interprétation quand vous copiez quelque chose. Et il faut savoir aussi d'ailleurs que certains procédés, comme notamment en Algérie où on a fait des relevés de fresques comme ça, ont beaucoup abîmé les fresques originales.
Oui, là je pense qu'il faut parler notamment de cette personne qui s'appelle André Lhôte, qui a travaillé en Algérie et qui tenait quasiment davantage à ses relevés qu'à l'original. Et donc, il avait fait une méthode de relevé de calque qui supposait de mouiller l'original, voire de surligner avec des couleurs, qui fait que ça abîmait l'original. Mmh. Et là, on voit quand même comment les techniques et le respect
et
des œuvres
et
la mentalité ont évolué.
Mmh. Bah, on parlait d'appropriation tout à l'heure. Bon, bah, là, il y a un peu la même chose. Il y a un peu quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des méthodes qui sont absolument interdites, évidemment, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on voit d'ailleurs à la fin de l'exposition, c'est qu'on fait des photos. Enfin, on a des instruments photographiques très précis. On prend des notes sur chaque micro centimètre carré de paroi. Enfin voilà, c'est pas du tout. On ne touche pas en fait aux choses. Là vraiment, ils arrivaient avec leur papier calque qui mouillait, puis ils reproduisaient dessus. Enfin, on a l'impression. Bon, c'est quand même un peu brutal. Et en même temps, effectivement, l'idée, c'était comme vous disiez, c'était qu'en fait, l'important, c'était de ramener ça en Europe et que ce qui reste là-bas, bon, finalement, bah de toute façon, on a fait l'empreinte. Donc, ce qui est important, c'est qu'on garde l'empreinte et puis l'original. Enfin, je caricature un peu, mais il y a quand même un peu cette idée-là. Parce qu'évidemment, ils étaient quand même.
Alors, tous ne faisaient pas des techniques aussi agressives. Mais c'est vrai que c'est assez fascinant d'imaginer qu'il n'y a pas si longtemps, on faisait des techniques aussi agressives pour des choses qui semblent aujourd'hui aussi précieuses. Enfin, Lascaux, on en est à la quatrième ou cinquième reproduction, parce qu'on sait à quel point aussi ces traces sont fragiles.
Mais on n'était pas du tout dans la même mentalité de préservation du patrimoine aussi. Enfin, voilà, on voit que les mentalités ont énormément changé de ce point de vue.
Margot, et notamment justement, alors sur peut-être qu'il faut finir aussi sur ce titre, Préhistomania, donc engouement pour la préhistoire. C'est quelque chose finalement d'assez récent, hein. Ça date, on le voit là, du début du XXe siècle. Qu'est-ce qu'il a rend possible et comment elle se manifeste?
Alors déjà, moi, j'ai appris quelque chose qui m'a absolument scotché. C'est, dans l'expo, il parle donc de ce patrimoine sensible, qui voilà rejoue ces questions de comment on préserve un patrimoine sensible en respectant sa sensibilité. Et c'est surtout le volume, car ils disent qu'il y a 45 millions de peintures et gravures rupestres et pariétales à travers le monde. Donc c'est assez beau de se dire que voilà, ça concerne, enfin que c'est aussi étendu en termes de nombre. Et pour revenir sur votre question, Joseph, oui, je pense que peut-être aussi, peut-être ce qui m'a gênée, c'était le manque de contextualisation sur la naissance de la discipline archéologique au 19e et 20e. Et j'ai vu que donc en 2014, le Goethe-Institut avait fait une exposition plus centrée sur la démarche de Léo Frobenius, qui est justement
qui est vraiment cité, un des pionniers, voilà, qui est cité dans l'exposition, ses relevés, qui fait partie des 3-4 pionniers personnages voilà. Montrée dans l'exposition.
Voilà. Et donc, il y a eu une expo dédiée donc, à cette figure même et à l'ambiguïté de sa pensée, en fait. Et, et dans cette expo de 2014, du coup, on montre bien qu'à la fois ces expéditions ethnographiques sont rendues possibles par l'appui des régimes nazis et fascistes, déjà, premièrement, et deuxièmement, que ses premiers écrits, en fait, s'inscrivent vraiment dans une pensée raciste ou diffusionniste, et que voilà, l'archéologie, comme naissance, enfin, comme discipline scientifique au 19e, voilà, s'inscrit dans une pensée raciste assez datée, bon, qu'il faut nuancer aussi, puisqu'elle est reçue. Enfin, parce qu'il évolue dans sa pensée, hein, Frobenius, et parfois il est reçu aussi par Senghor et Césaire plus tard comme plutôt un point d'appui à la négritude et à une manifestation de l'art sur le continent africain. Donc c'est plus complexe que ça. Les nazis voudront fermer son institut à sa mort en 1938. Mais néanmoins, enfin, je trouve important aujourd'hui, dans un contexte muséal, de quand même voilà, dresser un contexte historiographique sur la discipline et montrer l'ambiguïté et la volatilité, voilà, de... Mais c'est bon, peut-être que Préhistomania...
Non, mais c'est vrai que cette dimension-là est pas vraiment présente, non. Alors que, bah voilà, par exemple, on avait parlé ici de l'exposition Débordée, l'anthropologie au Musée du Quai Branly, qui rappelait quand même que, et l'anthropologie, mais aussi la préhistoire, s'ancre dans un moment, non seulement colonial, mais un moment où les différences raciales et biologisantes structurent en grande partie le monde savant. Je pense que c'est ça qu'on peut dire, voilà. Et que ça, c'est pas tellement affiché dans l'exposition.
Oui, en effet, il y a le contexte colonial de ces expéditions qui n'est pas du tout rappelé. Et d'ailleurs, il y a une série de photos qui sont très, très belles, dont je n'ai pas réussi à trouver l'auteur ou l'autrice, d'ailleurs, dans l'exposition. Mais il y a beaucoup de photographies, en fait, de ces expéditions. On voit bien les Blancs dans leurs camionnettes avec des personnes arabes ou noires autour qui poussent pour sortir du fleuve. Enfin bon, il y a quand même un contexte colonial précis et qui n'est pas rappelé parce que, donc, Frobenius était allemand, donc il va en Éthiopie. Voilà, il va aussi dans des lieux qui sont facilités par le fait qu'il soit allemand, donc des colonies. Les Français vont en Algérie. Enfin bon, il y a quand même ce contexte colonial qui n'est pas vraiment rappelé et qui forcément explique pourquoi certains sont allés ici et d'autres là, parce que selon les empires entre guillemets auxquels ils appartenaient. Et bon, ça évidemment, c'est pas le sujet principal de l'exposition, mais je pense que ça aurait été pas mal de rappeler aussi ce contexte là. La recherche, elle a lieu aussi, elle est facilitée aussi par effectivement des idéologies, mais aussi par des moyens financiers et par une volonté de voilà, couvrir la terre entière pour s'approprier aussi non seulement les richesses du pays, mais les connaissances aussi du pays et l'art de ces pays-là.
Et quand les cartels parlent d'épopée, c'est vrai que c'est un petit peu naïf, quoi. Non, mais il y a une vraie héroïcisation
de l'aventure.
C'est un peu...
C'est-à-dire que je pense que l'exposition Préhistomania fait son travail de mettre en perspective la science préhistorienne et notamment ses évolutions. On parlait des techniques tout à l'heure, mais elle ne le fait pas vraiment d'un point de vue politique. Elle parle beaucoup des techniques, mais peut-être pas de l'évolution politique de cette science et du contexte dans lequel elle s'inscrit.
Et d'ailleurs, pour reparler de ces femmes qui faisaient des relevés, donc on les voit quand même en bras de chemise. Elles bossaient, quoi. On sentait que vraiment c'était dur, leurs conditions de travail. Et vous avez quand même, juste à côté du portrait de Frobenius en short, d'ailleurs, bon, c'est assez drôle parce qu'il a une chemise autrichienne et un short.
Et il fait chaud en Éthiopie.
Ouais, il a quand même sa veste. Mais bon, il y a en fait des dessins qu'il faisait de ces femmes, où en fait, on les voit à photo à côté. Et lui, il les représente comme des espèces de playmates des années 20 et 30, avec des yeux comme ça, charmeuses, enjôleuses. Donc, c'est dans un pur fantasme, en fait. Parce que quand on voit les photos d'elles à côté, je veux dire, elles sont en pantalon pour l'époque, ce qui n'était pas forcément courant. En chemise, elles sont crapahutes sur les falaises. Enfin, c'était pas... Voilà,
elles sont en tenue de travail.
Elles sont... Voilà, c'est des travailleuses, quoi. Elles sont pas... Et donc, de le voir que, je sais pas, le soir, peut-être, il dessinait ces petits trucs, ces croquis là de femmes érotisées, c'est... Bon, c'est intéressant qu'ils aient mis ça, je trouve, parce que... Mais c'est...
Oui, ils l'ont pas masqué non plus, mais c'est vrai que démarche n'est pas complètement aboutie, de ce point de vue-là.
C'est assez intéressant, le décalage, quoi.
Préhistomania, c'est visible pour petits et grands au Musée de l'Homme, situé place du Trocadéro à Paris jusqu'au 20 mai prochain. Merci beaucoup à toutes les deux. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong et réalisé par Karen Beun.